aller trop vite, vraiment. Si vous aviez voulu chanter quelque chose d'autre. Alors moi, j'ai pas de PowerPoint. C'est deux, trois notes. Zacharie. On a quand même pu parler quelques minutes avec Andrew sur la route. Et je lui disais que le livre de Zacharie a souvent été médité d'une manière Le livre de Zacharie a souvent été médité d'une façon un peu, disons, limitée. Je ne voudrais pas dire le mot blessant, mais la caractéristique de Zacharie, c'est qu'il y a des visions, des prophéties. Elles vont concerner le Seigneur quand le Seigneur est venu, et elles vont concerner le Seigneur quand le Seigneur reviendra. Et elles vont concerner le peuple quand il y aura l'instauration du royaume, etc. Et alors, on se laisse un peu embarquer par ces visions prophétiques. Or, il est dit dans le livre d'Esdras que le peuple a prospéré parce qu'ils ont écouté la parole d'Agé le prophète et de Zacharie. Donc il y a un message que eux ils ont compris directement. Et ce message, ce n'est pas forcément toutes ces prophéties à long terme. C'est quelque chose qu'ils ont compris là, tout de suite. Et Zacharie parle à peu près en même temps qu'Agé. Ils sont décalés à quelques semaines près, un mois près, quand on regarde les dates. Donc, leurs deux messages ne se contrarient pas. Et Andrew, tu viens de terminer par rapport au fait d'avoir examiné nos vies. Eh bien, on va voir que Zacharie, il a commencé par là. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Il n'y a pas de contradiction entre ce que Dieu, dans ce que Dieu dit. J'avais pensé, mais peut-être que c'est un peu court, mais pour faire comprendre aussi comment aborder Zacharie ou l'Ancien Testament, j'avais pensé parler, n'en soyez pas choqués, de nos églises romanes, gothiques. Les bâtisseurs de ces églises au 11e, 12e, 13e, 15e siècle, avaient des principes. Pour l'art roman, ça culmine à Vézelay, où après tout le monde connaît Notre-Dame de Paris, ou à Lyon, ou voilà. Et il y avait des principes. La façade par laquelle on entre, la façade d'honneur, elle est à l'ouest, toujours, toujours. Vous prenez n'importe laquelle, elle est toujours à l'ouest. Donc le chevet tout là-bas au fond est à l'est. Et vous avez d'un côté une façade au nord et de l'autre côté une façade au sud. Ça ne marche pas ici, mais ce n'est pas grave. Les façades au nord et au sud sont percées de fenêtres et il y a des vitraux. Des vitraux, tu comprends? Les scènes qui sont représentées sur la façade au nord, qui ne reçoit jamais le soleil, ce sont les scènes de l'Ancien Testament. Et sur la façade sud, il mettait toujours les scènes du Nouveau Testament, qui lui est en pleine lumière, qui apporte la révélation. Vous voyez, ils avaient ce souci à travers des petits détails de dire que le Nouveau Testament éclaire vraiment l'Ancien. Donc dans l'Ancien, on ne va pas vraiment trouver toute la lumière, en particulier au sujet de l'Église. Mais on va trouver des choses qui seront redites de façon beaucoup plus lumineuse dans le Nouveau Testament, mais on va trouver des choses dans l'Ancien. Par exemple, les visions des chapitres 3 et 4 de Zacharie, eh bien, il faut les comparer avec toute cette doctrine qu'on trouve dans les chapitres 5, 6, 7 et 8 des Romains. Le fait qu'on est libéré de la puissance du péché, qu'on a le Saint-Esprit en nous, la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Eh bien, ce sont les chapitres 3 et 4 de Zacharie. Je commence la lecture et puis on fera des commentaires au fur et à mesure. Zacharie, chapitre 1er, verset 2. Je vous rassure, on ne va pas lire tout Zacharie. Et l'Éternel a été fort en courroux contre vos pères, et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels les premiers prophètes ont crié, etc., etc. Premier message, voyez-vous, il est adressé à ce peuple. Tu as parlé de discipline en Dieu. Il était sous la discipline. Il avait une mission claire, mais cette mission, elle était calibrée. Souvent, on aimerait connaître le chemin. Du moins, on aimerait que Dieu nous montre clairement, voilà, c'est là, tu vas là, tu fais ça. Pas aussi simple que ça. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, le chemin n'est pas toujours aussi simple que cela. Mais en ce qui concerne ce peuple, le chemin avait été tracé. Tout à l'heure, Andrew nous a fait ce diagramme de tous les prophètes. Eh bien, Ésaïe, 170 ou 180 ans avant, avait dit: Cyrus, le roi Cyrus vous fera sortir. Le nom était déjà donné, le nom d'un roi étranger, 170 ou 180 ans avant. Le temps était écoulé, Jérémie l'avait dit, Daniel l'avait redit. Et quand Cyrus arrive, c'est un bouleversement politique inattendu. Et Cyrus arrive et il dit, l'Éternel m'a dit. C'est clair, c'est limpide. Montez à Jérusalem, construisez le temple. Tout était clair, net. Il n'avait plus qu'à monter. Et il monte, il se laisse gagner par le découragement, une arme de l'ennemi, nous n'oublions pas. Il se laisse gagner par le découragement. Ils vont s'occuper de leurs affaires, mais c'est sûr qu'ils avaient aussi des problèmes. Hein. Et il laisse tomber la maison de l'Éternel. Alors il y a de la discipline. Et Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est une parole extraordinaire. Et le prophète Osée utilise un mot, il dit une porte d'espérance. Eh bien vraiment, il faut comprendre que cet appel de Dieu, c'est une porte. Il nous dit, mais revenez, quand tu t'es trompé, mais reviens. Reviens. Il n'y a pas de condition. Tu t'es trompé 10 fois, c'est la 11e fois. Reviens. Reviens. Et moi, je reviendrai à toi. Vous voyez, c'est une porte d'espérance. C'est pour repartir. Dieu ne nous enferme pas. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut nous aider. Regardez Pierre. Nous, on aurait dit, celui-là, il est mort. Enfin, il est fichu, excusez-moi l'expression. Et le Seigneur l'a fait repartir. C'est ça, la porte d'espérance. Alors, voyez-vous, ça, c'est pas une vision, là, dans le début de Zacharie. combien on sent l'enseignement que Jean, par exemple, va nous donner dans si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. On repart. Ici, sur le plateau, il y a eu toute une histoire. Et il y a une certaine analogie, ça m'a frappé ces derniers jours, l'histoire de la guerre de 40 et de cette multitude de réfugiés qui ont été sauvés grâce en particulier aux croyants du plateau. La capitulation française, c'est le 22 juin 1940. Le 23 juin, au temple du Chambon. Le temple est plein, comme il l'était hier soir pour ce concert donné par la chorale d'Aix. Le temple était plein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait un appel, ces hommes, ce pasteur proclamé, un appel à la repentance, à l'indignation. C'est ça qu'ils ont dit. Mais ils n'ont pas dit que ça. Mais toute cette histoire si belle du plateau, dans les années 40 à 44, il y a eu ça au départ. Revenez à moi. La repentance. Tous les réveils, Irlande, Pays de Galles, Angleterre, au 19e siècle, toujours, il y a eu cette vraie repentance. Alors, les pasteurs Trocmé et Pesse avaient ajouté quelque chose qui m'a touché. Vous avez dit de s'humilier ou se repentir, c'est pas à confondre avec le découragement. Et ça rejoint encore quelque chose que tu as dit en bio. Oui, tout est perdu. Avant d'en passer, c'était bien mieux. Maintenant, voilà, c'est perdu, c'est fini. Mais attention. Se repentir, c'est pas ça. Ne confondez pas humiliation vraie devant Dieu et découragement. Ils ont dit aussi, et ils avaient, ce pasteur Trocmé avait une connaissance assez étonnante des philosophies nazies, apparemment, parce qu'il avait très bien compris ce qui allait se passer. Il avait eu un discernement remarquable. Il disait s'humilier, ce n'est pas appliqué. Nous avons une foi, la foi dans notre Dieu, dans celui qui a dit, comme c'est écrit sur le fronton du temple du Chambon, aimez-vous les uns les autres. Eh bien, ce commandement, on ne le lâchera pas. On applique pas. S'humilier, ce n'est pas appliqué. Et ça, je crois que c'est important de le redire. Alors, j'abrège. On va lire maintenant la première vision dans les versets qui suivent à partir du verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sébat, en la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint à Zacharie, le prophète, fils de Béréka, fils d'Ido, disant: je vis de nuit, et voici un homme monté sur un cheval roux. Et il se tenait parmi les nuits qui étaient dans le fond, et après lui il y avait les chevaux roux, bais et blancs. Et je dis: que sont ceux-ci, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit: je te ferai voir ce que sont ceux-ci. Et l'homme qui se tenait parmi les nuits répondit et dit: ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se promener par la terre. Et ils répondirent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et dirent: nous nous sommes promenés par la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Et l'ange de l'Éternel prit la parole et dit: Éternel des armées, et jusqu'à quand n'useras-tu pas de miséricorde envers Jérusalem et envers les villes de Juda, contre lesquelles tu as été indigné tes 70 ans? Et l'Éternel répondit à l'ange qui parlait avec moi de bonnes paroles, des paroles de consolation. Et l'ange qui parlait avec moi me dit: crie, dis disant, ainsi dit l'Éternel des armées, et je saute un peu et nous arrivons au verset 17, ainsi dit l'Éternel des armées, mes villes regorgeront encore de biens, et l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. À choquer un peu, je l'ai déjà fait avec les églises, les cathédrales. On va parler d'autre chose. Le théâtre. Vous voyez, pour comprendre ce qu'est une vision, il n'est pas inintéressant, au contraire même, de penser à ce que c'est qu'une scène de théâtre. Une scène de théâtre, il y a des gens qui parlent, qui bougent, mais ce qu'ils disent, ne suffit pas à tout comprendre. Il y a tout un décor, il y a des tas de choses qui aident à comprendre ce qui se passe. Eh bien, une vision, c'est un peu pareil. Il y a des paroles qui sont échangées, mais si on oublie de regarder les détails qui font le décor, on passe à côté. Et là, le fond de cette scène, de cette vision, le fond, sont des petits arbres, des arbustes, qu'on appelle les myrtes. Je ne sais pas si les myrtes ont une utilité, je l'ignore, mais ce qu'il y a de certain, c'est que chaque fois que les myrtes sont citées, les quelques fois où le myrte est cité, en particulier dans le prophète Ésaïe, c'est toujours pour parler de bénédiction, toujours. Là où croissait l'ortie, s'il y a une plante inintéressante, c'est bien l'ortie. Là où croissait l'ortie, le myrte va croître. Dans le désert, quand le désert sera changé et fleurira, il va y pousser l'olivier, le cèdre, le myrte. Donc il n'y a pas de doute. Le myrte, il est associé à la bénédiction. Eh bien, le fond du décor, comme si Dieu voulait dire, mais le fond de ma pensée, ce que je veux pour toi, c'est ton bien, toujours. Et il faut comprendre ça pour mieux saisir alors ce qui se passe après. Il y a des anges qui se sont promenés par la terre et qui viennent rendre compte. Ils disent, tout est calme, tout est calme. Bien au plateau, au Chambon, quand en 42-43, par là, il y a eu toute une troupe de soldats allemands blessés, rescapés du front russe, qui ont été placés là pour se refaire la santé. Ben, vous savez, ça doit être calme. Hein. Je ne pense pas qu'on allait chanter la Marseillaise devant le bâtiment où il est. C'est calme. En Corée du Nord, c'est calme. Très calme. Et bien de ce temps-là, il y avait un royaume, un pouvoir tellement puissant que c'était calme. Quelques années après, mais vraiment que quelques années après, ce que nous lisons là dans Zacharie, il y a une reine, la reine Esther. C'est l'histoire de la reine Esther, elle est juste un petit peu. Elle va dire, elle fait dire, mais moi, entrer chez le roi, moi, la reine, entrer chez le roi sans qu'il m'ait autorisé, je mets ma vie en danger. C'est ça le pouvoir qu'il y avait à l'époque. C'est ça. Pour ça, j'ai cité des exemples terribles. Mais c'est ça le pouvoir qu'il y avait à l'époque. Alors, pas de problème. C'était calme. Et Jérusalem était. Et l'épreuve durait. Et parfois, il y a des épreuves qui durent. Alors Dieu vient nous dire, n'oublie pas. Regarde le fond du décor, les myrtes. Ce que je veux, ma pensée, c'est te bénir, c'est te faire du bien. Toujours. Toujours. Vous voyez l'encouragement, ils ont. ont reçus, là, quand l'épreuve est là et qu'elle est dure et libre, peuvent s'en poser des questions. Et des fois, on se culpabilise de s'en poser. Alors, il y a un petit détail ici. Jusque-là, quand l'éternel, jusqu'à quand ça va durer? Qui est-ce qui pose cette question? C'est l'ange. On peut tout dire à notre Dieu, n'est-ce pas? On peut tout lui dire. On a des questions, mais ce sont des questions, ce n'est pas des remises en cause de Dieu. Je ne dis pas ça. Mais nos questions, nos interrogations dans les peines, dans les souffrances, on peut les dire. Nous ne nous privons pas. Alors, Dieu peut bénir. Il y a juste un verset que j'aime beaucoup, une expression dans le psaume 65. Vous savez, Dieu veut nous dire, nous dit qu'il veut nous bénir de tant de sortes de manières. Mais il y en a une toute courte, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Vous avez tous compris. Nous avons tous compris. Là. On peut y aller. Ça coule. Chapitre 2. Et je levai les yeux et je regardai, et voici un homme, et dans sa main un cordeau à mesurer. Donc c'est un cordeau à mesurer, on comprend tout de suite. C'était vraiment un des principaux outils pour préparer une construction. Donc ça va construire. Et je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais pour mesurer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Et voici l'ange qui parlait avec moi sortit, et un autre ange sortit à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, disant, Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes, à cause de la multitude des hommes et du bétail qui seront au milieu d'elle. Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Oh, oh, fuyez donc du pays du nord, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Oh, échappe-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Alors, Dieu dit, viens, voilà, vous allez habiter Jérusalem, et comme une ville ouverte, et je serai, il dit, verset 5, moi je serai une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Certainement que l'habitude de l'époque était d'avoir des villes entourées de murailles. Et les villes donc étaient entourées de murailles, et Jérusalem était entourée de murailles. Du moins avait été entourée de murailles. La reconstruction, elle aura lieu plus tard, c'est le livre de Néhémie. Et Dieu dit, il va falloir que tu habites là. Et les murailles, ce sera moi. C'est comme Dieu, si Dieu nous disait, ce sur quoi tu t'appuies, tu ne l'auras pas pour que tu t'appuies. J'ai lu, peut-être plusieurs l'ont lu, mais le témoignage d'un frère qui a perdu son travail. Ah, c'est facile de marcher par la foi quand le travail va, quand la santé va, quand tout va. Il a perdu son travail. Des fois, le compte chèque en banque, le compte en banque, il est épuisé. Et la santé. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu dur qui nous dit, tu vas vivre sans ses appuis, en me faisant confiance. Non. Dieu nous dit, celui qui te touche la prunelle de mon œil. Ça veut dire, il n'y a rien de plus sensible et qu'on protège autant. Alors, on n'a pas besoin d'être médecin hein, pour savoir qu'on se laisse toucher ailleurs, mais l'œil, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme si Dieu nous disait, c'est impossible qu'on nous touche. C'est trop sensible pour moi. Alors fais-moi confiance. Mais voyez comment Dieu rassure. Fais-moi confiance. Et voyez les messages qui passent par la bouche de Zacharie. Repens-toi, et c'est une porte d'espérance, tu peux repartir. C'est pour que tu puisses recommencer. Et puis, ce que je veux, c'est te faire du bien, c'est te bénir. Et puis, fais-moi totalement confiance. Ah, les messages, ils sont forts. Hein. Alors, on arrive, vous voyez qu'on passe vite quand même. Hein. Je vous ai peut-être fait peur en disant qu'on allait parler de Zacharie, mais on arrive au chapitre 3 et 4. Maintenant que le chapitre 3 est un des plus connus, parce qu'on le lit, c'est un chapitre, ce sont des versets quand même. Alors, je vous disais Romains 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est Dieu qui dit, mais il n'y a aucun défaut. Aucun défaut. Dans ce que j'ai fait de toi, il n'y a aucun défaut. J'ai rien à te reprocher. Il n'y a aucune condamnation. Alors maintenant, on peut lire. Et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tente, Satan, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tente. Celui-ci, n'est-il pas un tison sauvé du feu? Et Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez de dessus lui les vêtements sales. Il lui dit, regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Et je dis qu'il mette une pierre pure sur sa tête. Et ils mirent la pierre pure sur sa tête. Et ils le revêtirent de vêtements. Et l'ange de l'Éternel se tenait là. Et l'ange de l'Éternel protesta à Joshua, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu fais l'acquit de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison. Et tu auras aussi la garde de mes parvis, et je te donnerai de marcher au milieu de ceux qui se tiennent devant moi. On lit souvent les paragraphes, le verset 2 à 5. On le lit même au culte, car ces versets expriment la justice. Il y a une question, Romains 8, justement. Qui est-ce qui justifie? C'est Dieu. Qui est-ce qui condamne? C'est Dieu qui justifie. tout et bien plus. Que voudriez-vous de plus? Il n'y a rien à ajouter. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui l'a fait. Et là, vous voyez, Satan est là. Et cette vision, elle est saisissante. Satan est là. Il est prêt, en sens de rage qu'il a pour attaquer, pour accuser l'accusateur. Et Dieu lui ferme la bouche. C'est Dieu qui justifie. Et Joshua est revêtu. La vie de fête. Il n'y a plus aucune condamnation, plus aucun reproche. Il est rendu digne, saint, parfait. Comme le dit le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, vous voyez, on est obligé d'emprunter au Nouveau Testament. Mais en fait, le paragraphe d'après est indissociablement lié quand même. C'est que Dieu dit, je t'ai rendu digne. Joshua, plus personne ne peut t'attaquer. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Plus rien. Or, pour servir, pour travailler, comme Andrew nous l'a dit, essayer de faire ce premier pas, poser cette première pierre pour aujourd'hui. Eh bien, une barrière pour nous, c'est de ne pas se sentir. Dieu dit non. Tu l'es. Mais tu ne l'es pas pour tout. Qu'on se comprenne bien. Tu l'es pour la charge ou le service que je te confie. C'est ce qui est dit au verset 7. Si tu marches dans mes voies, si tu fais l'acquis de la charge que je te confie, c'est-à-dire si tu accomplis la charge que je te confie. Dieu ainsi encourage chaque croyant à travailler, à reprendre courage, à le servir. C'est dans ce qu'il a préparé pour nous. On l'a vu hier au Mazé. Verset d'Éphésiens 2, les bonnes œuvres, marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi à l'avance. Si Dieu a préparé des bonnes œuvres pour moi, elles correspondent à ma personnalité, à ce que je suis, à ce que je suis en mesure de faire à l'âge où je suis maintenant, pas à l'âge où j'étais il y a 30 ans. Il a préparé, il a calibré. C'est fait pour moi. Il l'a préparé pour moi. Donc, il me qualifie pour le servir dans ce qu'il a préparé pour moi. Ailleurs. Mais je suis apte au service. Et voilà encore un message qui est donné. Qui était donné de ce temps-là par Zacharie. Pour que le peuple sache qu'il pouvait repartir. Il pouvait repartir au chantier du temple, dans ce service. C'était pas rien. Il ne faut pas minimiser. C'est vrai, Andrew, tu as dit que le temple était plus petit, mais c'était grand quand même. Mais quand on lit l'histoire de Salomon et de la construction du temple, on voit les moyens extraordinaires qui étaient mis en œuvre. Plus de 180 000 hommes étaient mobilisés pour construire ce temple. Donc il y avait des moyens. Là, quand on lit le livre d'Esdras, on se rend compte qu'ils sont montés un peu plus de 42 000. Et je me demande s'il n'y a pas dedans les femmes, les enfants, les vieillards. Il semblerait que ce soit plutôt question d'âme. Donc c'est peut-être tout confondu. Mais ceux qui faisaient à 180 000, eux, il faut qu'ils le fassent. Vous voyez, c'est une poignée. Du temps de Salomon, Salomon, il avait fait que l'or et l'argent, c'était comme les pierres du chemin. En même temps, la puissance qu'il y avait. Et eux, ils n'ont pas grand-chose. Il faut essayer de vivre, et on l'a vu dans la G. Quand tu travailles, ben, c'est plutôt tu n'es pas grand-chose dans ta bourse, quand tu t'habilles, tu continues à avoir froid, quand tu sèmes, eh bien, tu récoltes très peu. Donc vraiment, c'était le dénuement. Et puis, du temps de Salomon, c'était la paix, un royaume fort et puissant. Et là, un petit bout du peuple entouré d'ennemis. Et alors, il y avait donc tous les ingrédients pour qu'ils disent, mon Seigneur, c'est trop pour nous. C'est trop. Dieu dit, tu es digne et je t'ai confié ce service, donc tu peux le faire. Il est calibré pour toi. Et ils vont repartir. Et ils vont le construire. Et c'est extraordinaire comme ils vont construire ce temple. Et ce sera fait. Hein. En temps et en heure, si on peut dire. Alors les voilà qui repartent. Et il y a une dernière vision. Je vous invite, si ce n'est pas trop tard, à lire. C'est celle du chapitre 4. Je pense quand même un verset avant. On a parlé, tu as cité, je vous ai choisi. Ce sont des termes qu'on retrouve plusieurs fois dans ces livres d'Agé, Zacharie. Le Seigneur va le dire à ses disciples. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Il nous a établi, ça veut dire qu'il nous a mis en position. De dignité, de capacité. Nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Nous avons ses richesses. Et il nous a rendu dit, je vous ai établi. Chapitre 4. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Et je dis, je vois, et voici un chandelier tout or, et une coupe à son sommet, et c'est sept lampes sur lui, sept lampes, et sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet, et deux oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe, l'autre à la gauche. Et je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, disant, mais que sont ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, tu ne sais-tu pas ce que sont ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du fait avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. Et je lirai encore au verset 11, et je répondis et je dis, que sont ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Et je répondis une seconde fois et je lui dis, et que seront les deux branches des oliviers qui, à côté des deux conduits d'or, déversent l'or d'elles-mêmes? C'est juste pour préciser qu'on voit bien qu'il y a le lien entre les deux oliviers et cette coupe qui est sur le chandelier. Alors, nous sommes extrêmement habitués à la figure du chandelier dans le tabernacle, dans le temple. Il est représenté de façon, c'est une des rares choses, même peut-être la seule, vraiment représentée. Ce qui fait que le dessin, on est connu. Voilà, le chandelier, on connaît. Mais le chandelier de Zacharie, c'est pas du tout ça. Hein. Le chandelier de Zacharie, c'est vraiment. Le chandelier du tabernacle, du temple, c'est un chandelier pour lequel il fallait l'intervention de l'homme. Il fallait entretenir les mèches, Il fallait apporter de l'huile, mettre l'huile dans les réservoirs. Cette huile, elle provenait d'oliviers, il fallait avoir récolté les olives, oui, tout le chemin, les olives pressées, etc. Filtrées. Donc, ce chandelier, tel qu'on est habitué à le voir dans le tabernacle ou dans le temple, il n'est pas autonome. Alors, c'est une figure du Saint-Esprit qui est claire, mais en quelque sorte, il n'est pas autonome. Suite Zacharie, c'est bizarre, mais Dieu fait comme un appareil. Il y a le chandelier, il y a des oliviers, il y a des conduits, il y a même l'huile. Et ça fonctionne. Pas besoin de nous. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il n'y a pas besoin d'intervention de l'homme. Tout vient de Dieu. Vous voyez, c'est ça l'image de ce chandelier. Un peu étrange. Le chandelier de Zacharie. Ni par force, ni par puissance. Et historiquement, quand on lit le livre d'Esdras, on voit qu'ils avaient été contraints par force et par puissance à cesser de travailler. Dieu ne va pas répondre par les moyens humains. Il y a des ennemis qui sont venus, qui ont rôdé là, qui ont pris les noms des chefs, des anciens, des responsables, pour pouvoir les dénoncer. Je vous parlais de Trocmé tout à l'heure, le pasteur Trocmé. Il y a eu cette fameuse visite du préfet qui lui a dit, Monsieur Trocmé, j'ai sept indicateurs qui me disent tout ce que vous faites au chambre. La délation, c'est ça. Eh bien, dans le livre d'Esdras, il y a eu de la délation. Les ennemis autour, ils ont écrit au grand roi Darius, celui qui avait un tel pouvoir, pour lui dire, voilà, et ils se sont mis à reconstruire le temple, et voilà même ça c'était en écoutant Adjé, et voilà le nom, les noms de ceux qui sont à la tête. Humainement, c'était les maîtres directement, enfin, l'échafaud n'existait pas à l'époque, mais c'est ça. Pour les ennemis, le tour était joué. Pas pour Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alors, Darius va recevoir cette lettre. Les ennemis. Avec les noms. Et Darius va faire chercher. Il va faire vérifier. Et on va trouver dans une ville lointaine, effectivement, Cyrus avait donné l'ordre au peuple de construire. C'est pas par force, c'est pas par puissance, c'est par mon esprit. Et Darius, voyant que Cyrus avait donné l'ordre, lui, son successeur, va dire, eh bien, cet ordre, il faut le respecter. Et vous, là, qui êtes autour, qui m'avez écrit, vous qui m'avez donné les noms, là, de ceux qui construisent, eh bien, même vos impôts iront servir à payer cette maison. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. La confiance qu'on peut avoir dans la puissance de Dieu, mais la puissance qui l'a mise en nous. Et c'est vrai que dans les circonstances, dans la vie professionnelle, est-ce que quand j'ai une réunion compliquée, une négociation compliquée, est-ce que je peux prier le Seigneur? Eh oui. Pour les examens, pour les étudiants, mais oui. Il va me secourir. Je peux tout lui remettre. Là, vous voyez, dans le livre d'Esdras, ils ont été merveilleusement délivrés, ni par force, ni par puissance. Il n'y a eu aucun acte spectaculaire, aucune agressivité. Et ils ont été délivrés. Si on continuait l'exemple du plateau, ça vous rappelle quelque chose, c'est que tous ces enfants, ni par force, ni par puissance, mais ils ont été protégés. Ils ont été protégés. Et ils ont eu la vie sauve. Heureusement qu'ils ne se sont pas battus. Mais peut-être que la plus grande difficulté dans nos luttes, dans nos combats, elle est intérieure, elle est interne, intérieure. Et quand on prend en Romains 5, 6, 7, ça déroule. Voilà, maintenant, vous avez été crucifié avec Christ, alors marchez en nouveauté de vie. Je le crois. Marchez en nouveauté de vie. Maintenant, voilà, les convoitises de la chair, vous en êtes délivrés. Ah oui. C'est pas si simple. Hein. Et puis, après même, l'épître aux Romains continue. La loi, tu n'y es plus soumise. Maintenant, soumets-toi tout entier. Il faut même, il nous invite à nous livrer à Dieu comme vivant, comme étant fait vivant d'entre les morts. Obéir à Dieu. Il en est fuite des échecs. Et puis, il nous dit, tu sais, notre nature, pécheresse, elle a ce caractère que quand on lui interdit quelque chose, elle n'a qu'une envie de se le faire. Mais ça aussi, je t'en ai délivré. Alors, quand on lit ce chapitre 6, 7, du moins la première partie du chapitre 7, on a l'impression que tout est simple, tout est gagné. Le chapitre 7, à la fin, nous dit, j'y arrive pas. Heureusement que c'est Paul qui l'a écrit. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je le fais pas. Et alors arrive le chapitre 8, qui nous apporte tous les secours du Saint-Esprit. Il nous a affranchis de la loi du péché. Il est en nous. Et voyez-vous, cette lutte, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Je crois que j'en ai à peu près fini. Mais on comprend que, alors ces visions, vous voyez qu'on a vues, on a lu une partie par exemple de la première vision, après il y a d'autres choses qu'on a sautées, mais qui nous entraînent vers d'autres temps, d'autres moments où ces visions auront aussi une réalité. Mais concrètement, ce jour-là, à ce peuple qui était écrasé, qui était dans la peine, dénué de tout, il y a eu ces paroles, elles sont tellement encourageantes. Je te donne une porte d'espérance. Tu peux repartir, tu peux recommencer. Ce que je veux pour toi, il faut que je te le dise, c'est te bénir, te faire du bien. Je suis ta protection. Celui qui te touche, il touche la prunelle de mon œil. Et puis, tu es béni, capable. Et tu as le secours, la puissance que je donne en toi. Pour aller de l'avant, pour servir. Et un homme ayant cru, il faut croire, ayant cru cela, le peuple a repris le travail et il a prospéré. Qu'est-ce que ça veut dire prospérer? Et on va terminer là. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'était des choses valables. Ce qu'il a fait, ce sont des choses. Il a fait des choses, pardon, qui étaient de valeur. Des choses qui étaient pas pour maintenant, mais comme tu l'as dit en nous, des choses qui étaient pour le temps, pour l'éternité, des choses qui avaient du prix, des choses qui étaient.